Jean-Gilbert aux amis, bonjour, bonjour. Mireille, la belle-mère, bonjour. Alors, on est le jeudi 11 août 2022. Immacula, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Jude Caridad, bonjour. Sylvia, Pastor David, good morning. Happy to have you with us this morning. Indeed, you asked me to speak to you in French or to write to you in French. So bonjour, Sylvia. Bonjour à la sœur Linda Mounesami qui nous regarde depuis l'île Maurice. Je ne sais pas si les enfants sont encore là. Le voyage doit tirer à sa fin, je suppose. Alors, s'ils sont à côté de vous, on salue Indirène, Natacha, Chandia et toute la petite famille. Je ne me rappelle pas il y a combien d'heures de décalage entre l'île Maurice et Montréal. Alors, si la sœur Linda, vous pouviez me dire quelle heure il est chez vous? Ici, il est 8h20, 8h23 en fait. Alors, vous savez que c'est notre avant-dernière bénédiction matinale pour l'été. Après ça, je prends une pause de quelques semaines. À partir de lundi matin, je ne serai pas en ligne. Ou en onde plutôt. Marie-Marthe, bonjour. Vous avez encore 6 ou 7 minutes avant qu'on ne débute officiellement. Bonjour Claude, bien le bonjour Alterna, bonjour à Marcus, à Léa et à Déborah. Shalom la belle-mère. Hermano Edwin, Hermana Heide, que Dieu vous bénisse. Bonjour à mon père, bonjour à ma mère, bonjour à Léa, bonjour à Lilian et bonjour à Léandro. Fait beaucoup de prénoms avec des L, ça là.
Alors, journée ensoleillée.
Pas trop chaud, assurément pas froid non plus. Donc, j'espère que vous en profiterez. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi, la sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona. Content de vous compter parmi nous. Je t'ai aperçu de loin hier soir, Rachel. Bonsoir, la sœur Manon, au pasteur André. Bonsoir, comment ça? Bonjour à la sœur Manon et au pasteur André. Bonjour Pascal. Je dois être sous un autre décalage horaire. Je commence à dire bonsoir. Il est 8h30 le matin. Merci Manon. Alors hier, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours voir l'étude biblique d'hier soir sur notre page Facebook de l'Église. C'était le frère Mereste qui enseignait hier soir. Il nous a parlé sur la difficulté de trouver des serviteurs fidèles. Marie-Huguette, bonjour. Martha Lucia, bonjour. Encore 2 ou 3 minutes avant qu'on ne débute. Denise de Laval-Ouest, bonjour, bonjour. Merci Marie-Huguette. Sois bénie toi aussi. Bonjour Guy. J'avais amené ma guitare hier, je pensais te la montrer. Comme j'avais du temps à passer avant l'assemblée, on est arrivé de bonne heure, donc j'avais amené ma guitare. Je me suis amusé à jouer un peu. Et je pensais que tu viendrais, donc je me réjouissais de te montrer mon petit joujou. Alors hier, on était un tout petit peu plus nombreux que d'habitude. Il semble qu'il y ait quelques coupures. En tout cas, à l'écran, il me semble voir quelques coupures par moment. Alors, j'espère que vous n'avez pas de difficulté à me suivre. Et que le son ne coupe pas. L'image est une chose, le son en est une autre. Bonjour Bernadette. Alors hier, on était content de voir Hélène avec son charmant garçon. Hélène est la fille de notre sœur Bernadette qui est venue nous visiter hier soir à l'église. On était très content. Babette, Andreas, bonjour et bonjour à la petite famille. Merci Pascal pour le feedback. Myriam, Donald, bonjour, bonjour. De la jolie ville d'Orléans. Alors, avant qu'on débute, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière bénédiction matinale pour l'été. Donc, il y aura pause pendant 2 ou 3 semaines. Daphné va être en vacances. Donc, je vais en profiter moi aussi pour prendre un peu de repos, si possible. Et donc, on ne fera pas les bénédictions matinales pendant 2 ou 3 semaines. On va reprendre quelque part au début du mois de septembre. De surcroît à cela, sachez que demain soir, il n'y aura pas de prière, il n'y aura pas de prière non plus le vendredi soir pendant cette période de vacances. Voilà, donc demain soir, pas de prière, j'ai un autre engagement important, donc je ne pourrai pas être là demain soir. Et par la suite, donc je serai en pause et en pause aussi pour le vendredi soir. Donc, faut pas nous chercher ni le matin ni le soir, mais bien entendu, on vous annoncera en temps et lieu le retour à la norme pour le début septembre. Denise Gérard, bonjour. Christine, bonjour. Alors, prions et on débute. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ce moment encore d'étude, de recherche de ta face, de recherche d'instruction de ta part, afin d'être les serviteurs et les servantes que tu désires. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, à ta parole, que celle-ci puisse trouver une bonne terre qui a été bien dépouillée de toute souillure, de toute mauvaise herbe, de tout ce qui serait un obstacle à ta parole, et que cette parole, Seigneur, puisse non seulement s'implanter profondément dans nos vies, mais que, étant arrosée par l'onction de ton esprit, qu'elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors merci d'être là, merci de prendre soin de nous, et merci de pourvoir encore aujourd'hui en cette parole de bénédiction et de transformation. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Alors, bienvenue à cette autre bénédiction matinale, avant-dernière de la semaine, mais aussi avant-dernière de cette période estivale. Alors, je lis pour vous le passage qu'on étudie depuis déjà plusieurs semaines. Cette prédication du dimanche a eu lieu et donc, on reprend l'avant-dernière prédication qui s'intitule Veillez à être utilisable. Je lis donc pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, du verset 6 au verset 22. Et après ça, je vais relire la deuxième partie du verset 11 une ou deux fois, simplement pour s'imprégner correctement de ce verset qu'on étudie cette semaine. Alors, 2 Timothée 4, le verset 6 nous dit: Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et je reprends donc la deuxième partie du verset 11 à quelques reprises. Donc, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vous rappelle la thématique de cette semaine, veillez à être utilisable. Une suite logique de l'enseignement de la semaine dernière où nous parlions de la seigneurie de Jésus, de la seigneurie qu'il doit posséder, qu'il doit exercer sur notre vie si nous sommes effectivement croyants. On expliquait la semaine dernière que nous ne pouvons pas nous limiter à avoir Jésus comme sauveur, donc celui qui pardonne nos péchés, celui qui nous accorde la vie éternelle, celui qui nous bénit par sa présence et qui nous bénit par notre espérance de vie à ses côtés pour l'éternité. Il doit aussi être notre Seigneur. Et Seigneur a un sens tout particulier. Ce n'est pas nécessairement un terme purement religieux. C'est un terme tout à fait laïque. Un terme qu'on utilisait probablement il y a un certain temps, plusieurs siècles. C'est un terme qui est lié à la monarchie ou à la royauté. Un seigneur est le propriétaire d'une terre et le propriétaire d'une contrée et le maître absolu de cette contrée. Donc la vie des sujets, la vie des serviteurs, la vie de tout individu qui habite dans le territoire sous la juridiction de ce Seigneur est donc mise entre les mains du dit Seigneur. Et lorsqu'on parle de Dieu comme notre Seigneur, et je vais prendre une gorgée, on parle donc que Jésus doit être maître, voire propriétaire de notre existence. Et on a expliqué le terme rachat, qui voulait dire payer pour ravoir comme propriété une chose, et en l'occurrence une personne dans le cas d'un esclave. Et dans notre cas, lorsqu'on a été racheté par Jésus, il a donc sauvé notre vie, oui. Il nous a pardonné nos offenses, oui. Mais il a aussi acquis de nouveau les droits de propriété sur notre vie. Malheureusement, très souvent, on vit en faisant fi de ce droit acquis de Christ sur nous. Et par conséquent, on devient des sauvés, des graciés, mais très loin d'être les serviteurs qu'on est supposé être. Et par conséquent, si Jésus ne peut pas être notre Seigneur, il ne peut pas plus être notre Sauveur. Alors c'est une réflexion importante qu'on a eue la semaine dernière. Et puisqu'on parlait du Seigneur, on parle donc des serviteurs que nous sommes. Et voilà pourquoi la thématique de cette semaine, veillez à être utilisable. On parle de Marc, de cette personne qui pendant un certain temps a abandonné Paul. Au cours du premier voyage missionnaire de Paul, il était parti avec Paul et Barnabas, son cousin, et ayant fait une certaine distance à un moment donné de but en blanc. Il décide donc de retourner vers Jérusalem et d'abandonner, de laisser choir le projet de voyage missionnaire que Paul et Barnabas avaient entrepris. Et lorsque le deuxième voyage, ou la possibilité de ce deuxième voyage s'est présentée, Barnabas a voulu une fois de plus prendre Marc avec lui et Paul s'y est opposé à un tel point où Paul et Barnabas ont décidé de fait commun, ont décidé donc de se séparer. Barnabas a pris avec lui son cousin Marc et Paul est parti donc avec Silas et ils ont vaqué au ministère et à l'appel que Dieu leur avait lancé. Mais toujours avec cette pensée que Paul avait, comme quoi Jean-Marc avait été un déserteur dans ce premier voyage et qu'il ne voulait donc pas avoir un potentiel déserteur à ses côtés. bien des années plus tard, alors que Paul est maintenant en prison à Rome, il fait mention de Marc en disant à Timothée de l'amener avec lui, parce que maintenant, au point où Marc est rendu, il est donc utile pour le royaume et pour l'avancement du royaume. C'est donc une espérance pour nous, même si nos débuts sont parfois difficiles, voire chaotiques, si nos débuts sont parfois chancelants, il est possible de se reprendre. On ne peut pas parler d'une doctrine de la discipline de la part de Dieu et de la part des autorités que Dieu place au sein de son corps, sans parler pour autant, ou sans parler aussi plutôt d'une doctrine de restauration. S'il y a discipline, c'est dans le but d'une restauration. S'il y a correction, oui, c'est pour payer pour une infraction, mais c'est dans le but aussi de restaurer la personne et de donner à la personne tous les outils nécessaires et tout le cadre nécessaire pour mener une vie telle que Christ le veut. Alors l'exemple de Marc, aussi appelé Jean-Marc, est un bon exemple pour nous, comme quoi la restauration est possible. Et dans cette restauration, on va avoir besoin de gens comme Paul, qui sont capables de passer outre l'outrage premier dont ils ont été l'objet, et de voir une croissance potentielle chez certains serviteurs, et voire même de confier ses serviteurs à d'autres bras droits, à d'autres collègues pour leur servir de mentor. Et c'est un peu ce que Paul va demander à Timothée en disant à Timothée de prendre Marc et de l'amener vers lui. Prendre le terme analambano qu'on a vu lundi, qui veut dire saisir par le collet, soulever pour un transport ou une utilisation. Et parfois le Seigneur a effectivement besoin de prendre la manière un peu forte pour nous ramener à l'ordre. Et parfois, cette manière un peu forte s'exerce aussi à travers ou par l'entremise d'un serviteur. Toujours avec grâce, toujours avec amour, toujours dans le but de la croissance et de la restauration. Mais à un moment donné, on doit être confronté avec nos mauvaises voies, avec nos mauvaises attitudes, avec nos mauvais penchants. Parce que si personne ne nous dit rien, si personne ne s'oppose à nos méfaits et à nos failles, ben comment va-t-on changer? Donc Paul dit à Timothée, assure-toi de le saisir par le collet, de le prendre, de le soulever vers le haut, de l'amener vers le haut, de le tirer et de le pousser vers le haut. Et amène-le avec toi. Et amener, c'était le terme ago qu'on a vu hier, qui veut dire marcher ensemble. Et ça impliquait une marche ensemble entre Paul et Jean-Marc, qui l'avaient précédemment déçu, entre Timothée, serviteur, enfant spirituel, enfant chéri de Paul, qui est appelé à prendre peut-être à ses côtés quelqu'un qui, humainement parlant, aurait pu être considéré comme un rival, comme un concurrent dans l'œuvre. Même si on n'est pas supposé avoir de rivaux, ni de concurrents ou d'adversaires dans l'œuvre, mais parfois on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, donc on n'aime pas voir quelqu'un nous dépasser ou avoir le potentiel de nous dépasser. Alors Timothée devait faire fi de ce sentiment peut-être de jalousie, faire fi, et ça je présume qu'il l'avait, puisqu'il était humain comme nous tous, donc passer outre cette appréhension première pour prendre Jean-Marc et l'amener vers Paul, tel que Paul, son père spirituel, l'avait demandé. Et aujourd'hui, on voit le troisième terme de ce passage, car Jean-Marc ou Marc m'est utile pour le ministère. Utile. Le terme grec, eucrestos. Alors je l'appelle pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes quand même quelques-uns à le faire. Eucrestos, qui s'écrit E-U-C-H-R-E-S-T-O-S. Je répète, Eucrestos, E-U-C-H-R-E-S-T-O-S, pour le terme utile. Dans la conception du terme, encore là, il y a plusieurs particules dans le terme eucrestos, un préfixe et un suffixe, donc le début du mot, you, eu, qui veut dire toujours bien, beau, appréciable, facile, simple. Je répète, eu, la particule qui débute le terme eucrestos, qui va vouloir dire bien, beau, appréciable, facile et simple. Christos va vouloir parler, donc ça c'est la fin, le suffixe, la fin du terme va vouloir parler de être utile, employé, agréable, bienfaisant et de qualité. Je répète, Christos, utile, employé et employable, agréable, bienfaisant et de qualité. Foncièrement, Eucrestos utile va nous parler d'être utile, mais aussi utilisable. Et j'aime faire la distinction entre ces deux termes, utile et utilisable. C'est pas parce que je suis utile que je suis nécessairement utilisable. Par contre, si je suis utilisable, ben j'espère que de surcroît je suis utile. Qu'est-ce que être utile? Être utile, c'est être un élément qui apporte un plus à une démarche ou qui facilite une démarche ou qui bonifie une démarche. Donc, être utile, c'est être profitable à un travail, être profitable à une œuvre, être profitable à une tâche. Être utilisable, c'est autre chose. Être utilisable, c'est avoir cette disposition à être utilisé. Et là, vous voyez vraiment la distinction. Il y a des gens qui pourraient être utiles, mais qui ne se rendent jamais utilisables. Il y a des gens qui pourraient être profitables dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont jamais accessibles, disposés, disponibles pour l'œuvre de Dieu. Alors, si je devais simplifier la formule d'aujourd'hui, je dirais être utilisable et utile ou être facile à utiliser. Être facile à être utilisé. On a tous déjà eu des collègues autour de nous qui sont compliqués. On a tous déjà eu des gens autour de nous qui ne vont travailler que s'ils sont dans tel ou tel contexte qui leur sont favorables et profitables. S'ils ont tel environnement, si on a pourvu telle chose et telle autre chose, s'ils sont dans telle condition, s'il s'est passé ceci, s'il s'est passé cela, s'il y a telle personne, telle autre personne, alors à ce moment-là, ils sont présents. Mais s'il manque un des détails qu'ils estiment important, ils rebroussent chemin et se rendent inaccessibles et inutilisables. Travailler avec de telles personnes, on se l'avouera en toute honnêteté, c'est compliqué. Hier, le frère Mérest parlait sur le serviteur fidèle et sur ce verset dans Proverbe qui dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle qui en trouvera même. À un moment donné, Dieu va dire, voici, je cherche un homme qui élève un mur entre moi et le peuple et qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. Alors Dieu cherchait dans tout le peuple d'Israël un homme qui pourrait se tenir à la brèche en intercédant en faveur du peuple pour que le jugement et la correction de Dieu ne tombent pas sur le peuple, et il ne trouvait pas même un homme qui pouvait se tenir effectivement à la brèche. C'est un constat qui est malheureux, c'est un constat qui est triste. Mais un homme fidèle, puisque Salomon pose la question, un homme fidèle, c'est pas nécessairement simple non plus à trouver. Et que ce soit dans une église, que ce soit dans l'ensemble du corps de Christ, que ce soit au niveau d'une équipe, sportive, d'un club, au niveau d'une équipe de travail. Trouver des gens utiles et utilisables, ça peut être assez compliqué. Quand on disait tout à l'heure, le préfixe you, donc you Christos, le préfixe you voulait dire bien beau et appréciable. Ça veut dire qu'on remarque chez quelqu'un que son travail est profitable, que son travail est bon. Lorsque Paul arrive à dire, après des années, voici Jean-Marc, mais utile pour le ministère, c'est donc qu'il a eu des rapports de cette personne, il a eu des mises au point concernant Jean-Marc, qui lui ont dit, voici, Jean-Marc aujourd'hui n'est plus le même jeune homme, n'est plus le même serviteur qu'il l'était au début de ton œuvre missionnaire lorsqu'il vous a largué. Ça veut donc dire que Paul a eu le temps de voir le progrès, de voir l'amélioration et de voir les résultats, les fruits du travail de Jean-Marc. Et ayant vu tout cela, il en vient à la conclusion que Jean-Marc est donc effectivement utile, donc il rend un bon travail, il donne de bons fruits, il donne de bons résultats. Trop malheureusement, souvent on veut oublier cette facette de la reddition de comptes et du fait que les gens ont le droit de nous observer. La Bible nous dit que c'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre. C'est à ses fruits aussi qu'on reconnaît un bon arbre. Un bon arbre va produire de bons fruits. Un mauvais arbre va produire de mauvais fruits. Et lorsqu'on veut analyser un serviteur, il nous faut regarder les choses sur une période de temps. Effectivement, il pourrait y avoir des cas exceptionnels, comme c'est arrivé avec Paul et Barnabas, où la voix de l'Éternel se fait entendre et puis nous dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais lorsqu'on regarde ça, on a l'impression que Paul et Barnabas, en tout cas plusieurs, ont l'impression que Paul et Barnabas sont de nouveaux convertis et puis ils débutent et là tout d'un coup il y a cet oracle divin qui dit de mettre à part deux serviteurs pour une œuvre toute particulière. Ce qu'on oublie, c'est que Paul est à Antioche depuis déjà un certain temps. Paul est à Antioche en fait depuis 14 ans. Lorsqu'on fait le calcul de son temps à Damas, de la mort d'Étienne, de sa conversion, du début de son premier voyage missionnaire et tout ça, on se rend compte que Paul a passé environ 14 ans dans l'église d'Antioche. Et dans ces 14 ans, il a eu le temps de faire ses preuves. À un tel point qu'il a été considéré, il était au sein de l'assemblée ou du collège des anciens de l'église d'Antioche. Lorsqu'il va y avoir cette parole, mettez-moi à part Paul et Barnabas, on se rend compte que c'est une réunion des anciens de l'église d'Antioche. Et alors qu'ils étaient dans la prière et dans le jeûne, Dieu va dire, maintenant que vous êtes réunis en tant qu'anciens, voici, je vous donne cette recommandation, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Libérez-les de leurs tâches pour qu'ils puissent vaquer à cet appel à l'extérieur d'Antioche. Mais ça nous révèle deux choses. Un, que Paul a pris du temps pour se préparer, que Paul a été examiné par l'Assemblée et que l'Assemblée a reconnu Paul comme un des membres du collège d'anciens au sein de cette congrégation. Ça veut donc dire que les fruits de Paul ont été visibles non seulement sur le temps, mais aussi sur la qualité, et que ces fruits ont amené ses pairs, Pairs, ont amené ses pairs à le considérer effectivement lui aussi, qui est un ancien meurtrier, qui est un ancien oppresseur de l'Église, qui maintenant est utile pour l'œuvre de Dieu. Donc Paul lui-même a été obligé de passer par ce temps d'observation, ce temps de formation, ce temps d'expérimentation, jusqu'à ce qu'on le déclare effectivement côte à côte avec d'autres des anciens de l'Église d'Antioche et plus tard comme apôtre, puisque Pierre lui-même va dire que Paul est un des apôtres de l'Église. Donc le ministère apostolique va être reconnu chez Paul. Mais tout cela s'est fait avec le temps, avec l'observation, avec l'analyse. Ce n'est pas toute une question d'oracle divin. L'oracle était venu dire, maintenant il y a une nouvelle phase qui s'ouvre et Paul doit sortir avec Barnabas pour faire ce travail. Mais avant ça, tout ce qui était de positionner Paul comme ancien dans l'église d'Antioche, de siéger au niveau du conseil d'anciens, tout cela était dû à l'observation des fruits bons, propices, favorables, qui étaient fournis par Paul. De surcroît à cela, au lieu de surcroît à beau, bien et appréciable, il y a aussi facile et simple. You, dans You Christos, va dire beau, bien, appréciable, mais aussi facile et simple. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont difficiles. Il y a des gens avec qui c'est compliqué de travailler. Paul appréciait Timothée parce qu'il pouvait envoyer Timothée là où il y avait un besoin et Timothée y allait. Paul était intéressant comme serviteur parce que s'il y avait un besoin quelque part, il s'y présentait. Et cette même chose a été communiquée à son fils spirituel qui a œuvré à Corinthe, à Éphèse notamment. Alors que c'était des églises qui étaient compliquées et des églises qui avaient des besoins particuliers. Paul savait que si j'envoie Timothée là-bas, il va faire le travail et il va s'y pointer. La question pour toi et pour moi, on veut être utilisé, mais sommes-nous des ouvriers faciles à vivre? Sommes-nous des serviteurs faciles à côtoyer? Ou sommes-nous des serviteurs pénibles? Qui arrive dans un endroit et puis il n'y a pas la marque d'outils qu'on désire et ils ne savent pas se dépêtrer. Ils arrivent dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas, ils doivent préparer un gâteau, il y a tous les ingrédients, mais il n'y a pas le bol qu'ils utilisent eux à la maison, il n'y a pas le fouet électrique qu'ils utilisent eux à la maison, il n'y a pas le couteau électrique qu'ils utilisent eux à la maison. Et là, ils sont désemparés et ils disent « Non, non, moi je ne peux pas travailler dans de telles conditions. » Paul va dire « Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner au moins quelques-uns. » Paul va dire à Timothée « Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Pourquoi? Parce que l'œuvre le nécessite, l'œuvre en a besoin et l'œuvre mérite notre travail constant, discipliné et facile. On est supposé être une équipe, on est supposé être une armée et dans une armée, chacun des bras de l'armée, chacune des composantes de l'armée travaille les unes avec les autres. Par conséquent, nous aussi, on devrait travailler les uns avec les autres. Trop souvent, on a des attitudes orgueilleuses, hautaines, méprisantes d'un service à un autre, d'une position à un autre. Je vous ai rappelé il y a quelques semaines, lorsque je parlais du serviteur, la personne qui vient me voir en me disant « Ouais, Florent, je veux savoir dans quoi tu vas m'utiliser, mais je veux te dire que je veux servir Dieu, mais je ne veux pas servir dans les histoires d'école du dimanche, des portiers, de l'accueil, des hommes ou de ci. » Donc la personne me disait « Je veux prêcher. » Mais foncièrement, si cette personne, aux yeux du collège pastoral n'est pas apte à prêcher, on ne l'utilise pas. Si la personne n'a pas produit les fruits nécessaires, Si la personne ne produit pas les fruits du comportement, de l'attitude qui sont nécessaires, on ne l'utilise pas dans de telles fonctions. Ça serait mettre le peuple de Dieu en danger, puisqu'il communiquerait de l'orgueil, du mépris, une attitude hautaine à l'ensemble de la congrégation. Ce qu'on veut, c'est amener des serviteurs qui connaissent l'humilité, qui connaissent la modestie, qui connaissent la simplicité de cœur, qui connaissent l'amour, la compassion, la grâce. Par conséquent, ça nous prend des serviteurs qui sont aussi faciles à utiliser. Mais faciles aussi, dans le sens, il y a un besoin, Timothée y va. Il y a un besoin, Paul s'y présente. Est-ce que nous ne servons que dans un secteur déterminé en disant, non, non, moi je ne vais faire que telle chose. Donc si tu me demandes de le prêcher, je suis là, mais si je ne prêche pas, alors je ne sers pas du tout. Parfois, il y a cette attitude-là. Alors foncièrement, qu'est-ce qu'on veut? On veut servir, on veut être écouté, on veut être à l'avant-scène, on veut un micro, on veut faire progresser l'œuvre de Dieu. Il faut se poser la question, pourquoi je sers? Pourquoi je désire telle chose? C'est bien beau de dire parce que j'ai l'appel, parce que j'ai le mandat, parce que j'ai le talent, parce que j'ai ci et j'ai ça, tu pourrais être utile effectivement, mais tu pourrais avoir une attitude qui te rende inutilisable. Parce que l'orgueil trop fort, parce que la quête de popularité trop insistante, parce que la modestie difficile à voir, parce que la simplicité de cœur inexistante, par conséquent, en tant que serviteur de Dieu et en tant qu'autorité spirituelle, nous devons mettre un holà à cela et ne pas utiliser, même si la personne pourrait être utile, mais comprendre qu'elle est peut-être utile, elle pourrait peut-être être utile, mais elle n'est pas utilisable. Et voilà pourquoi l'importance du terme cette semaine, se rendre utilisable par Christ. Avoir le caractère du serviteur que Dieu veut. Avoir l'humilité du serviteur que Dieu veut. Avoir la compassion du serviteur que Dieu recherche. Et faire en sorte de produire les fruits qui font que les personnes en autorité placées par Dieu peuvent non seulement avoir cette confirmation très spirituelle à l'intérieur d'eux que cette personne est effectivement appelée par Dieu, mais de surcroît à cela qu'elle produit les fruits qui doivent être liés à un serviteur de Dieu. Rappelez-vous les textes tant dans Timothée que dans Tite pour ceux qui aspirent au ministère, ceux qui aspirent à être évêque, ceux qui aspirent à servir en tant que diacre. Les choses qu'on mentionne là-dessus ne sont pas nécessairement des choses spirituelles. Être mari d'une seule femme, ne pas être adonné au vin, ne pas être enflé d'orgueil, ces choses-là, ce ne sont pas des choses spirituelles. Ce sont des choses tout à fait naturelles, très quantifiables, très mesurables et qui peuvent être attesté par un, deux, trois, plusieurs témoins. Et ces choses-là, encore aujourd'hui, ont leur raison d'être. Il est encore important aujourd'hui, lorsqu'on s'apprête à utiliser quelqu'un, que cette personne soit, oui, utile, qu'elle puisse permettre l'avancement du royaume de Dieu, mais que cette personne soit aussi utilisable selon les règles d'utilisation du royaume de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Être utile, être eucrestos, être disponible, disposé et facilement disposable de la part de Dieu et de la part de son corps, de son Église. Alors prions. Merci Seigneur encore pour cette exhortation. Avoir le cœur d'un serviteur, mais un cœur non pas du serviteur de cette terre, mais un cœur du serviteur de Dieu. Un cœur selon Christ, un cœur selon les principes, selon les traits de caractère de Christ. Alors acceptez, Seigneur, non seulement, oui, d'être utile, d'avoir des talents, mais d'avoir tout ce que ça implique au niveau caractériel, au niveau personnalité, au niveau de l'entre-gens, au niveau des relations interpersonnelles, tout ce que ça prend aussi pour être utilisable. C'est pas une question d'être un favori, c'est pas une question d'être applaudi par la foule. C'est une question d'afficher le caractère de Christ et d'afficher les prérequis que Christ impose à toute personne qui veut venir à sa suite et servir. Alors je prie, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui sont déjà en train de servir au sein de ton Église, je prie, Seigneur, qu'ils veillent à leur attitude, qu'ils veillent à leur caractère, qu'ils veillent à leur comportement pour continuer à être utilisés et à être utilisables. Et pour ceux qui aspirent à servir, qui n'ont peut-être pas encore commencé, je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux et que tu leur montres, Seigneur, les prérequis. Inscris dans ta parole ces prérequis, Seigneur, de caractère, d'attitude, de façon d'être, afin, Seigneur, d'être eux aussi utiles, mais aussi utilisables. Alors parle-nous, instruis-nous, éclaire les parties de notre vie qui ne sont pas agréables pour toi. Éclaire ces sections de notre façon d'être ou de notre état qui nous rendent difficiles à côtoyer, difficiles à travailler conjointement. Mais permets-nous, Seigneur, d'accepter non seulement ton observation, mais aussi d'accepter l'observation de ceux qui nous entourent et de ceux, Seigneur, qui sont placés en autorité sur nous et qui veillent sur le bien-être de l'Église. Alors bénis-nous, instruis-nous, guide-nous, change-nous, transforme-nous et par ta grâce, utilise-nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors avant de vous laisser, simplement vous rappeler deux choses. Donc demain, c'est la dernière bénédiction matinale pour l'été. On reprendra par la suite quelque part au mois de septembre. Et de surcroît à cela aussi, demain soir, il n'y aura pas de prière. De même que dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de prière le vendredi soir, puisque je prends répit de mes diffusions web. Donc, je serai en repos. Je ne suis pas en vacances. Le terme me chatouille un peu. Donc, je vais dire, je vais être plutôt en repos et puis ou en répit. Et puis, on se retrouve quelque part en septembre avec nos diffusions, tant des bénédictions matinales que des prières et d'intercessions du vendredi soir. Alors, demain matin, dernière bénédiction matinale pour cet été. Et on verra demain le terme diaconia, ministère. Et vous allez vous rendre compte que l'image qui est donnée dans ce mot a un sens particulièrement important qui va rester gravé dans votre pensée. Alors, on espère que vous serez là demain matin. Sinon, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Soyez utile et utilisable pour le royaume de Dieu. Bonne journée à tous.